Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. La semaine dernière a eu lieu à Brest le One Ocean Summit, le sommet international sur les océans, qui était dédié cette année aux océans et notamment à la lutte contre les plastiques. 3 jours de forums et d'ateliers réunissant les plus grands spécialistes et chercheurs pour agir face aux menaces sur l'océan. Je rappelle que chaque année, c'est 8 millions de microplastiques qui arrivent de l'intérieur des terres vers l'océan. Cette pollution est due en grande partie à notre production industrielle qui ne cesse d'augmenter. Ces débris plastiques sont bien évidemment ingérés par les oiseaux, les poissons, les mammifères marins. Et via la chaîne alimentaire, on les retrouve dans nos assiettes et donc dans nos estomacs. Toutes les associations crient à l'urgence, il faut arrêter de produire des contenants plastiques à usage unique et se tourner vers un mode de production durable. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à des entrepreneurs qui innovent justement pour proposer des alternatives à ces microplastiques. Tout à l'heure, je vous emmènerai à Bordeaux découvrir une start-up bordelaise qui propose des objets publicitaires éco-responsables et réalisés à partir de matières premières alimentaires. Mais tout de suite, on va s'intéresser à un gobelet 100% made in France et éco-responsable.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Enlacé très engagé, nous l'avions déjà reçu à Sud Radio pour sa brosse des toilettes éco-conçue en plastique biosourcé à partir de filaments de betterave, de déchets marins et sans poils. Bonjour Sandra Legel.
Bonjour Nathalie.
Alors vous êtes la fondatrice et dirigeante de Biome Paris et là vous êtes lancée dans l'éco-conception toujours, hein, parce qu'on garde vraiment ces mêmes valeurs. D'ailleurs vous le dites, hein, en tant qu'entrepreneur nous avons une responsabilité dans les déchets que l'on produit.
Exactement, et c'est pour ça qu'il faut produire des objets qui vont durer dans le temps et utiliser bien sûr toutes les connaissances et les compétences qu'on a à notre disposition pour le faire d'une meilleure façon.
Il faut consommer autrement.
Exactement.
Et donc vous avez développé un BOG, un gobelet multi-usage, conçu avec les mêmes valeurs que cette brosse de toilette que vous aviez déjà créée.
Donc en fait, le BOG a été conçu, éco-conçu bien sûr, comme toujours, avec des matières plus responsables. Il y a 30% d'huile usagée qui provient en fait des fast-food français.
Oui.
Donc là, encore une fois, bien sûr que c'est un gobelet, donc compact alimentaire, donc on n'a pas tellement de choix. Mais voilà, on a fait ce choix-là pour dire, voilà, ça en fait, c'est la matière qui convient le mieux et qui va vraiment durer dans le temps. Et ce qui est important aussi, c'est on indique en fait ce que c'est comme type de plastique. Donc là, en fait, nous, on a le symbole numéro 5.
Ouais.
Et c'est important parce que, par exemple, dans les centres de tri, quand il n'y a pas d'indication concernant le symbole, en fait, le produit n'est pas trié.
Ah oui, d'accord.
Vous voyez, donc voilà, c'est pas nous, on l'indique, il y a d'autres sociétés qui font d'autres produits super bien, mais voilà, ils mettent que c'est recyclable, ils mettent que c'est contact alimentaire, ils mettent pas le symbole et là voilà, je milite pour ça aussi.
Mais l'avantage c'est que si on a le symbole, on est sûr que ça sera recyclé parce qu'on sait le classer. C'est ça ?
Oui, enfin, 100% sûr. Là, je ne veux pas trop.
Je m'engagerai pas là-dessus.
Non. C'est vrai qu'on a des chiffres, mais vous voyez, c'est très difficilement vérifiable. On va dire environ 30% de nos déchets plastiques sont recyclés.
Oui.
Mais vous voyez, c'est encore très complexe, c'est très compliqué. Mais c'est à nous, les producteurs, les créateurs en fait de produits, d'aller vers cette transparence-là, de dire voilà ce qu'on fait aujourd'hui, il faut le faire d'une manière vraiment très très précise. Il faut respecter en fait les consommateurs, il faut respecter notre environnement. Donc il faut tout mettre sur la table en fait pour dire voilà ce que vous achetez, voilà
ce qu'il y a
on
dedans.
Explique exactement.
Et le gobelet alors, parce que c'est vrai que les gobelets en carton on en trouve, hein, mais on les jette aussi.
Ouais.
Alors que
ouais.
Celui-ci on va le garder longtemps, donc on est vraiment dans ce qu'on appelle la production durable. Oui. Est-ce que si on liste les matières premières, donc vous l'avez dit, il y a deux. Donc rappelez-nous tout ce que vous avez pu utiliser et recycler justement pour faire ce gobelet.
Oui, après je suis vraiment pas toute seule. Vous voyez, je suis entourée
avec votre équipe,
tellement...
bien évidemment.
Non, mais même des partenaires qui sont extraordinaires, etc., qui nous amènent en fait tout ce savoir-faire. Et ça, c'est l'industrie française qui est vraiment sur le point de se réinventer aussi, parce qu'on sait maintenant, en fait, eux, ils savent injecter d'autres matières. Vous voyez, nous, on a ouais. déjà injecté donc des algues brunes, voilà, des sargasses, les algues de Saint-Malo. Enfin, c'est les déchets de filaments de betterave. Mais tout est possible en fait. Finalement, tout est recyclable.
Mais oui, alors, derrière, ce gobelet que l'on obtient, justement, quand vous dites tout est recyclable, donc ce gobelet, on peut aussi bien l'utiliser pour mettre sa brosse à dents dans sa salle de bain. Exactement. Comme il y a un couvercle, on peut aussi l'utiliser comme un mug, qu'on va pouvoir, un thermos qu'on va prendre avec soi. Est-ce qu'on peut mettre de l'eau chaude, tout ce qu'on veut? Il peut subir les mêmes traitements ou il y a quand même des règles à suivre?
Bien sûr, mais complètement. C'est pour ça, en fait, ça reste du PP, ça reste du plastique. Et donc là, on a, quand on vend, en fait, le BOG, en fait, il y a des précautions d'emploi. Et après, évidemment, on ne peut pas chauffer. C'est pas, le BOG n'a pas de fonction d'isotherme, par exemple.
Oui.
Vous voyez, pareil, je suis très claire là-dessus. On est en train de faire des tests, justement. Mais après, voilà, on connaît déjà, en fait. Donc, du coup, voilà, c'est pour transporter sa boisson. Bien sûr, ça va maintenir à une certaine température pendant une certaine durée. Mais ce n'est pas non plus fait pour chauffer, en fait, à outrance.
Oui, non, mais c'est un gobelet qu'on va pouvoir réutiliser. Mais du coup, avec là encore des matériaux biosourcés ou issus de l'économie circulaire.
Exactement. Et on peut mettre sa salade de fruits dedans, on peut l'amener à la salle de sport. En fait, c'est vraiment multi-usage. C'est pour tout le monde, en fait. Vous voyez, moi, à la maison, par exemple, évidemment, j'en ai pas mal, mais je mets, par exemple, des cookies dedans, je mets du sel dedans. En plus, ça crée une jolie petite collection. Enfin, vous voyez, c'est...
Et vous avez fait le choix du financement participatif. Donc, vraiment, vous voulez qu'on s'implique, hein, quand on...
Oui, évidemment. C'est pour plusieurs raisons. Moi, je me définis comme un éco-entrepreneur. Donc, moi, j'aime en fait partager avec les gens, la communauté. Mais c'est aussi pour leur donner en fait des informations auxquelles normalement ils n'ont pas vraiment accès. Et après, il faut quand même pas se voiler la face. Vous voyez, les moules ont été fabriqués en France. Les moules ont coûté rien que les moules. Donc, je parle pas du design industriel. Je parle pas de 44 000 euros.
Donc,
quand on regarde entre guillemets, le petit succès de la campagne, en rien ça finance un projet en fait industriel.
Ouais.
Il y a des coûts, derrière on a des phases de prototypage, justement toute la phase d'éco-conception, et c'est pour ça que c'est important quand même, c'est pour ça qu'on n'est pas très nombreux et nombreuses à se lancer en fait dans l'industrie du hardware pur, parce que c'est très coûteux, mais c'est là aussi, ça fait 6 ans maintenant qu'on est là, ça fait 4 ans que le premier produit, donc BBB La Brosse, est sur le marché, et en fait, si on arrive à grandir, c'est parce qu'on est super bien entouré et des gens qui ont compris la nécessité de se mettre dans ce domaine, parce que la France, quand même, à l'époque, vous voyez, dans l'Oise, c'était vraiment la région où est née la brosserie française.
Oui, bien sûr. Il n'en reste plus qu'une, d'ailleurs. Une brosserie classique. Je pense notamment à la brosserie française qui fait des brosses à dents et des brosses à cheveux.
Oui, mais vous êtes fière.
Mais vous êtes fière de ça parce qu'aujourd'hui, vos deux produits sont entièrement produits sur le sol français, de A à Z. Il n'y a pas une seule étape qui ne se fait pas sur le sol français.
Tout à fait. Mais justement, et en fait, vous voyez que vous dites la brosserie française. En fait, Nata, qui produit donc les manches, en fait, pour la brosserie française, donc pour la brosse à dents bioceptile, en fait, moi, c'est fait dans la même usine.
Ouais.
Et c'est vraiment un partenaire, et plus qu'un partenaire, parce qu'il est aussi co-actionnaire, en fait, de notre société. Vous voyez,
vous êtes en train de recréer un petit écosystème dans l'Oise, comme ça, autour de ces savoir-faire.
Oui, mais après, et derrière aussi, c'est quand même un objet aussi un peu, geek, si on peut dire ça, parce qu'en fait, il y a un QR code sur le couvercle qui donne en fait des éco-tips.
Ouais.
Vous voyez, des éco-tips, ça peut concerner la maison, ça peut concerner en fait le jardin, ça peut concerner la propreté, mais vous voyez, c'est ça aussi. On a voulu aller plus loin que juste le gobelet. Donc évidemment, on veut éliminer toutes ces tonnes de déchets que représentent en fait les gobelets jetables, mais on a voulu aller plus loin. Et encore une fois, vous voyez, c'est grâce aux autres. Enfin, c'est vrai que le gobelet a été co-construit. Le nom, c'est mon mari qui l'a trouvé. Le QR code, c'est un pote, en fait. C'est Jean-Baptiste qui a dit, ce serait bien. Mais vous voyez,
des personnes autour de vous, aussi bien donc, dans votre cercle privé que professionnel, qui partagent les mêmes valeurs. Et il y a cette volonté à travers ces produits de sensibiliser. Il y a ce travail de pédagogie qui est aussi présent dans les produits sur lesquels vous travaillez.
Oui, exactement. Et c'est ça, en fait, finalement, qui me fait plaisir aussi et qu'on voit qu'on est suivi, même copié. En fait, mais c'est ça le but, vous voyez. C'est en partageant qu'on avance et qu'on va beaucoup plus loin.
Eh bien, merci beaucoup, Sandra Legel. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et dirigeante de Biome Paris. Et je vous invite à aller découvrir le BOG, le gobelet multi-usage. Merci Super. Beaucoup. Merci, Sandra.
Merci,
et je vous souhaite
Nathalie,
une très belle journée.
Merci. Vous aussi. Au revoir.
Au revoir. Alors, on va se quitter quelques secondes avant de découvrir une autre entreprise qui, justement, propose des alternatives à tous ces produits que l'on peut trouver et qui ne sont pas durables. À tout de suite.
Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, présente.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français consacrée aujourd'hui aux alternatives au plastique. La semaine dernière a eu lieu à Brest, le One Ocean Summit, le sommet international sur les océans, qui était dédié à ces océans, et notamment la lutte contre les plastiques. Je le rappelle, on l'a dit en début d'émission, 8 millions de microplastiques qui arrivent de l'intérieur des terres vers l'océan chaque année. Et nos invités, eux, proposent des alternatives, justement. On part tout de suite en direction de Bordeaux découvrir une start-up qui innove dans ce domaine.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et nous sommes en ligne avec Annabelle Théâteux, est-ce que je le prononce bien ?
Oui, on dit Théâte.
Théâte. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
De 3D Foodies. Alors, en 2017, vous avez créé donc cette entreprise qui propose des objets imprimés en 3D avec de la matière alimentaire. 4 années de recherche et de développement, Annabelle.
Oui.
Ça a été long.
Oui, bah c'est pas évident. Aujourd'hui, on est la première entreprise au monde en production par impression 3D alimentaire. Et voilà, c'est un
Expliquez-nous quel type de produit vous créez, justement, vous fabriquez.
Alors, l'intérêt, c'est qu'on a des imprimantes 3D qui permettent de designer ce que l'on veut en forme, en couleur.
En taille également ? On peut faire des gros objets ?
Voilà, c'est de l'impression 3D alimentaire professionnelle. C'est-à-dire, on peut faire des grandes capacités. Je peux vous scanner et vous faire en bonbon, par exemple. Faudra me dire le goût que vous avez.
Je suis allée voir sur votre site. Au niveau du détail, c'est impressionnant.
Oui, ça a été vraiment notre motivation de départ avec une question. Pourquoi en impression 3D alimentaire, il n'y avait pas des imprimantes et des propositions professionnelles? Et donc, c'est professionnel dans notre capacité de production, effectivement dans la taille, mais dans le niveau de précision. On fait des couches de 100 microns qui fait qu'on peut mettre sur un bonbon ou une sucette un QR code, par exemple, qui va être lisible.
Et en plus, donc là, quand vous excluez les allergènes, les conservateurs, les additifs controversés, vous souhaitez avoir des produits les plus sains possibles.
C'est ça, ça fait partie vraiment de nos axes de motivation. On est dans l'économie de demain, donc on fait attention à la planète et attention à notre santé. Donc au niveau, par exemple, des matières utilisées, ce sont que des matières naturelles, non transformées. C'est-à-dire sans additifs, sans conservateurs, sans gélatine. On imprime aujourd'hui, on s'est imprimé du sel, de la confiserie, du miel. Ce sont des recettes. Et en fait, toute la technologie, l'impression ne transforme pas. C'est-à-dire la recette que l'on met à l'origine,
l'imprimante
va simplement donner une forme.
Et on le disait, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans le détail, vous avez cité plusieurs matières premières. Au niveau des palettes, vous avez combien de couleurs, de saveurs possibles ?
Alors au niveau des couleurs, on a 6 millions de couleurs. En fait, c'est comme une imprimante à plat, c'est-à-dire on va avoir des colorants pâtissiers qui vont être du jaune, du rouge et du bleu, qui nous permettent en fait d'avoir...
Des couleurs primaires, qui vous permettent d'avoir
toute la gamme des couleurs... Comme de l'impression classique en 2D.
Et au niveau des saveurs, là encore, c'est assez large également ?
Tout l'intérêt en fait de l'impression 3D, c'est qu'on va créer sur mesure à la demande. Donc nous, on a une gamme d'arômes que l'on a développée, mais on peut sur mesure développer des arômes, ça peut être de la crème brûlée, de la framboise, une composition. On a par exemple fait un design de la citadelle de Corte en Corse, oui. Et on a développé pour eux quelque chose qui était corse. Alors c'est pas de la charcuterie au niveau du goût. On est parti sur on a fait amandes fleur d'oranger parce qu'ils ont un AOP d'amandes. Qui voulait mettre en avant au niveau du territoire du centre de la Corse.
Alors après, le souci, c'est que c'est tellement... Alors c'est beau, mais c'est tellement bon finalement, vu qu'on garde les saveurs, que c'est des goodies qui ne restent pas longtemps, non ? Qui sont destinés à être croqués.
Oui, c'est ça. Mais l'intérêt, c'est vraiment la mémorisation. Dans la communication, l'objectif, c'est que les gens s'en rappellent. Et plus on vit quelque chose, plus on s'en rappelle, dans la mesure où en plus c'est innovant. Donc c'est vraiment une expérience sensorielle qui va marquer les esprits. Et en termes d'efficacité, même si c'est mangé, les gens vont se rappeler qu'ils ont goûté une sucette de la dernière Porsche, par exemple, arôme crème brûlée et du coup en parler autour d'eux.
Oui, et surtout, c'est pas un énième goodies en plastique qui traîne sur son bureau.
C'est ça. C'est produit en France et on a fait un petit peu le tour des objets qui restent dans les tiroirs. Là, effectivement, c'est de la communication qui va être éco-responsable et qui va marquer les esprits, donc efficace. Et c'est très créatif aussi parce que vraiment, on fait du sur-mesure. La taille, la couleur, le design, le packaging, les arômes, c'est à la demande pour chaque commande.
Vous pouvez produire jusqu'à combien d'articles par jour ?
Là, aujourd'hui, on a 5 imprimantes, donc on peut faire à peu près 5000 pièces par jour.
Ah oui, donc vous avez une belle capacité de production également. Quelle a été la partie la plus compliquée, justement, dans la mise au point de cette technique d'impression avec des matières alimentaires ?
Alors, il y a deux sujets pour nous en recherche et développement. Ça a été de développer et de créer ces imprimantes de grande capacité. Mais là, on va dire que c'est mécanique et électromécanique. Donc, c'est du travail, mais ça se fait. Mais tout le challenge, c'est vraiment de la chimie alimentaire, de faire les recettes et de travailler cette nouvelle matière en impression 3D. Et c'est ça qui est... le plus pointu, et d'autant plus que nous, on s'est vraiment mis un cahier des charges contraignant de qualité nutritionnelle. L'intérêt de notre processus, en fait, c'est qu'il garde les valeurs nutritionnelles des recettes d'origine, parce qu'on travaille à froid, donc on ne transforme pas.
Oui. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça a payé, puisque cette idée innovante, elle séduit de plus en plus d'entreprises.
Oui, on démarre une fois qu'on a fini la R&D, on a démarré en commercialisation. Aujourd'hui, on a à peu près 150 clients au niveau national qui sont des entreprises qui vont chercher à communiquer de façon éco-responsable, personnalisée, de façon innovante. Voilà, un nouveau média de communication éco-responsable et produit en France.
Produit en France, si vous l'avez dit, une innovation mondiale. Parce que pour l'instant, on n'avait pas beaucoup de concurrents dans ce domaine-là.
Pour l'instant, on est les premiers et inscrits au patrimoine économique français.
Eh bien, écoutez, bravo encore pour cette très très belle idée qui ne pollue pas, qui ne génère pas de déchets et en plus qui ravit nos papilles, tout simplement. Merci Exactement. Beaucoup, Annabelle Théat de 3D Merci. Foodies.
Merci pour l'invitation.
Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Allez, il est temps d'aller se balader et de retrouver Thibaut, notre French Trotter.
Le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur vous présente
Sud Radio C'est ça la France avec Thibaut, le French Trotter.
Thibaut, comment allez-vous ?
Nathalie.
On vient d'évoquer les amandes, l'orange corse. Et vous, je crois que vous nous proposez une incursion aujourd'hui dans le monde fascinant des abeilles.
C'est ça, Nathalie. On va partir en balade au royaume de ces petites bêtes grâce à Happyland. C'est une entreprise située au pied du barrage de Serponçon dans les Hautes-Alpes. Alors, Happyland, c'est à la fois une miellerie, un musée et bien plus encore. On y est reçu par Sandrine et Lionel Roland, un collab sur l'agriculture, la biodiversité et bien sûr les abeilles. Et on va tout de suite en savoir plus grâce à Lionel qui est en ligne avec nous. Bonjour Lionel.
Bonjour Lionel.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer à Nathalie et aux auditeurs le concept d'Happyland ?
Alors, Happyland Nature, c'est déjà une exploitation apicole d'environ 250 ruches. Donc, nous sommes apiculteurs professionnels. Et en parallèle de ça, nous avons donc créé un espace muséographique qui se visite et qui présente l'univers des abeilles et des produits de la ruche dans son ensemble. Voilà.
Alors, comment se passe la visite? Est-ce qu'elles sont guidées? Est-ce qu'il y a des horaires? Ça se passe comment?
Ah oui, alors, c'est vrai que ce qui a fait un petit peu notre force, c'est que toutes les visites chez nous sont des visites guidées et accompagnées. Donc, c'est des visites qui durent pas loin de 2h, 2h30.
Alors, on peut y passer la journée, on peut y passer l'après-midi en tout cas, une demi-journée.
Une journée, oui, ou la matinée, ou l'après-midi, absolument. On reçoit tout type de personnes puisqu'on a une visite guidée. Donc, ça va des maternelles aux visiteurs particuliers, des familles, jusqu'au quart senior, bien évidemment. Alors, en fin de compte, vous avez à peu près, au départ de la visite guidée, vous avez 1h15 pour découvrir l'apiculture. Donc, l'idée, c'est de proposer une approche ludique et interactive du métier d'apiculteur, la vie des abeilles et des produits de la ruche. Alors, vous avez beaucoup de thèmes. Vous avez, par exemple, l'historique de la ruche. Vous avez les produits de la ruche qui sont de l'ordre le miel, le pollen, la cire, la gerbille et la propolis. Donc, tout ça est expliqué en détail. Les habitants de la ruche, évidemment, la reine, les abeilles et puis les fameux faux bourdons. Les prédateurs de l'abeille aussi, on incite aussi sur ça, avec les guêpes, les frelons, etc. On a la chance d'avoir des insectes géants qui ont été réalisés spécialement pour le musée.
C'est ça, j'ai entendu parler de sculptures géantes.
Oui, on est un peu les seuls en France à avoir des sculptures de cette qualité-là. C'est assez impressionnant, puisque du coup, on se retrouve, nous on parle de l'infini petit, hein, les abeilles c'est tout petit, donc pour se rendre compte des choses, ou d'autres insectes comme les prédateurs, les guêpes ou les frelons, en fin de compte, nous on a des sculptures qui font 2 mètres.
Donc c'est une vraie approche pédagogique en fait.
Ah ben oui, parce que du coup vous avez une autre vision des choses. Quand c'est grand comme ça, vous voyez tous les détails anatomiques de ces insectes, donc ça c'est fascinant. Ça a été un gros plus pour nous quand on est arrivé à concevoir ces insectes, qui sont très longs à faire. Hein. On met 1 an pour faire un insecte et aujourd'hui on en a environ 14.
Oui, et les enfants, ils approchent à un moment donné les vraies abeilles ou pas? Vous leur mettez une combinaison? Comment ça se passe?
Non, on met pas de combinaison pour des questions de sécurité, oui. Parce qu'à tout moment, finalement, même avec une combinaison, déjà on n'est pas très à l'aise, et puis si vous tombez sur quelqu'un petit qui est allergique, et puis qui peut se faire piquer même, y compris à travers la combinaison,
oui, c'est vrai.
Un petit peu délicat. Par contre, non, c'est ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on fait actuellement et ce qu'on va encore développer dans les années à venir, c'est que, en fin de compte, il y a des grandes baies vitrées, et vous voyez les abeilles qui travaillent, vous êtes à quelques centimètres d'eux, puis on les dérange pas, et on les voit rentrer, on les voit sortir, on a deux types de vivarium, c'est un vivarium, c'est une ruche vitrée.
Et ah, on a c'est également... génial.
Oui, ça plaît beaucoup. Et on a aussi un essaim sauvage, donc tel qu'on peut le trouver dans la nature, dans un tronc d'arbre creux, par exemple. Alors ça, c'est fascinant, hein, puisque on les voit travailler, puis on les voit aussi se faire un petit peu embêter par les prédateurs. Donc tout ça, c'est un moment très important.
Alors je crois savoir qu'il y a un gros chantier en préparation pour faciliter les visites libres, c'est ce que vous m'avez dit.
Alors oui, effectivement. Alors ce qui fait notre force, c'est les visites guidées, et ce qui fait aussi un peu le problème et la faiblesse d'Apiland, c'est que les gens qui sont en visite qui dans notre département ou les gens qui veulent faire un tour chez nous, ils sont obligés de se calquer sur les horaires que nous on leur donne. Parce qu'on n'est pas tout le temps disponible, vu qu'on est apiculteur professionnel, et du coup, on a des horaires à respecter. Et ça, c'est toujours difficile quand on est en vacances de respecter les horaires. Donc, et je le comprends bien, tout à fait. Alors du coup, on perd déjà pas mal de clients. En intersaison, on est un peu moins ouvert, évidemment, aussi aux visites. Donc, on a décidé, alors ça, c'est tout nouveau, hein, ça vient de tomber. On a décidé qu'en 2024, c'est pas pour tout de suite, mais on a un gros, gros travail de conception, de proposer également le musée en visite libre. Donc, on aura les deux formules, soit visite guidée avec l'apiculteur ou l'apicultrice, soit visite libre. Voilà. Et là, ça sera ouvert quasiment toute l'année.
Bon, il faut encore patienter un petit peu. Mais bon, c'est une bonne idée de visite. On est en vacances, spécialement conçu pour les enfants.
Et on déguste du miel à la fin.
On déguste du miel. Donc voilà, une idée visite pendant ces vacances de février. Merci beaucoup.
Avec grand
merci
plaisir.
Beaucoup, Lionel.
Il y a plein de choses. Vous pouvez aller vous appuyer sur notre site internet apiland.com pour avoir vraiment tout le détail du programme qu'il y a à faire chez nous. Et il y a vraiment pas mal de choses à faire. Voilà.
Merci beaucoup à vous.
Merci Lionel.
Merci à vous. Merci, avec plaisir. Au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup Thibault. Pour cette
bientôt, Nathalie,
très,
pour
très
notre
bonne
visite.
Idée. Oui, bien sûr, la semaine prochaine.
Oui.
On arrive à la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout, 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 d'ici là, portez-vous bien.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibault le French Trotter.
Vous a été présenté par le comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté
Sud Radio, c'est ça la France.